Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Article Laïcité. Première partie, tome 2. Ce mot est nouveau et, quoique correctement formé, il n'est pas encore d'un usage général. Cependant, le néologisme est nécessaire. Aucun autre terme ne permettant d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. Nous avons exposé une partie de la question au point de vue législatif et statistique, surtout pour ce qui concerne les pays étrangers, en traitant des écoles confessionnelles et non confessionnelles. Il nous reste ici à mettre en lumière, très sommairement, le principe même de l'enseignement laïque, ses caractères, ses conséquences, ses avantages et ses périls. Pour cet exposé, nous nous appuierons sur la législation française en vigueur. Il sera facile au lecteur de généraliser les doctrines que nous avons à présenter sous cette forme. La laïcité, ou la neutralité de l'école à tous les degrés, n'est autre chose que l'application à l'école du régime qui a prévalu dans toutes nos institutions sociales. Nous sommes partis, comme la plupart des peuples, d'un état de choses qui consistait essentiellement dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines, dans la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion. Ce n'est que par le lent travail des siècles que peu à peu les diverses fonctions de la vie publique se sont distinguées, séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l'Église. La force des choses a de très bonne heure amené la sécularisation de l'armée, puis celle des fonctions administratives et civiles, puis celle de la justice. Toute société qui ne veut pas rester à l'état de théocratie pure est bientôt obligée de constituer comme force distincte de l'Église, sinon indépendante et souveraine, les trois pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. Mais la sécularisation n'est pas complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout l'ensemble de la vie publique et privée, le clergé conserve un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle ou de veto. Telle était précisément la situation de notre société jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l'idée de l'État laïque, de l'État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. L'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la constitution de l'État civil et du mariage civil, et en général, l'exercice de tous les droits civils désormais assurés en dehors de toute condition religieuse, telles furent les mesures décisives qui consommèrent l'œuvre de sécularisation. Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l'Ancien Régime, malgré près d'un siècle d'oscillation et d'hésitation politique, le principe a survécu. La grande idée, la notion fondamentale de l'État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n'en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détails, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n'a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus séculière, la plus laïque de l'Europe. Un seul domaine avait échappé jusqu'à ces dernières années à cette transformation. C'était l'instruction publique, ou plus exactement l'instruction primaire, car l'enseignement supérieur n'était plus tenu depuis longtemps à aucune sujétion, et quant à l'enseignement secondaire, il n'y était astreint que pour ses élèves internes, c'est-à-dire en tant que l'État se substituant aux familles est tenu d'assurer aux enfants, dans les murs des collèges où ils sont enfermés, les moyens d'instruction religieuse qu'ils ne peuvent aller chercher au dehors. L'enseignement primaire public, au contraire, restait essentiellement confessionnel. Non seulement l'école devait donner un enseignement dogmatique formel, mais encore, et par une conséquence facile à prévoir, tout dans l'école, maîtres et élèves, programmes et méthodes, livres, règlements, étaient placés sous l'inspection ou sous la direction des autorités religieuses. L'histoire même de notre enseignement primaire expliquait ce régime. Par des motifs divers, tous les gouvernements qui se sont succédés chez nous depuis le commencement du siècle avaient répudié les projets de la Convention et mis tous leurs soins à reconstituer ou à maintenir le système ancien de l'école confessionnelle. Un système qui a pour lui une existence de plusieurs siècles, tout un ensemble d'écoles formées et de maîtres en possession d'États, qui a de plus l'approbation du clergé, celle de tous les partis sauf un seul, et qui a enfin en sa faveur des considérations économiques toujours puissantes, même auprès des municipalités théoriquement opposées à l'enseignement clérical. Ce système ne pouvait être aisément abandonné. Et, pour qu'un gouvernement résolu d'y substituer hardiment le régime de la laïcité, il fallait que, d'une part, l'opinion publique fut revenue aux traditions de 1789 et de 1792 et vit d'une vue bien claire la nécessité d'accomplir dans l'instruction publique la même révolution que dans tout le reste de nos institutions. Et il fallait, d'autre part, que le gouvernement fût en mesure de lever les nombreux obstacles préalables qui empêchaient de songer à cette transformation, c'est-à-dire qu'il fût maître de l'enseignement public, qu'il en tînt le budget dans sa main, qu'il l'eût rendu gratuit et obligatoire, qu'il l'eût dégagé de la tutelle des communes et de celle des bienfaiteurs de toutes sortes, qui, sous prétexte de le doter plus ou moins richement, se réservaient le droit de le faire diriger à leur gré. C'est à une date très récente encore que ces diverses conditions se sont trouvées remplies et que la loi française a pu établir la laïcité de l'école primaire. On sait, après quels débats acharnés et au prix de quels efforts persévérants, la loi du 28 mars 1882 a pu être promulguée. Quelques pays nous avaient précédés dans cette voie. Dès le commencement du siècle, la Hollande avait adopté le principe de l'école neutre. La loi de 1806 excluait de l'école l'enseignement religieux dogmatique et stipulait que cet enseignement ne pourrait être donné qu'en dehors des heures de classe par les membres du clergé des différentes confessions. La loi de 1857 disait « L'instruction religieuse est abandonnée aux communions religieuses. Les locaux scolaires pourront, en dehors des heures de classe, être mis à leur disposition pour les élèves qui fréquentent l'école. » La loi du 17 août 1878 a maintenu cette disposition. En Autriche, la loi du 14 mai 1869, tout en plaçant la religion au nombre des branches obligatoires d'enseignement à l'école primaire, dit que l'enseignement religieux doit être donné par les ministres des différents cultes. Toutefois, dans les localités où il n'y a pas d'ecclésiastique, l'instituteur peut être autorisé à donner des leçons de religion aux enfants de sa confession. En Suisse, la Constitution fédérale de 1874 porte, article 27, les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience et de croyance. Cette disposition n'institue pas d'une manière formelle la laïcité de l'école primaire. Aussi, dans presque tous les cantons, l'école est-elle restée confessionnelle? L'enfant appartenant à un culte autre que celui que professe la majorité des élèves est simplement dispensé d'assister aux leçons de religion. Les cantons de Berne, de Bâle, de Turgovie, de Neuchâtel et de Genève ont toutefois introduit chez eux la laïcité du personnel enseignant, c'est-à-dire que les personnes appartenant à des ordres religieux ne peuvent enseigner dans les écoles publiques. Seul, le canton de Neuchâtel a établi en outre la laïcité de l'enseignement lui-même. Au terme de la loi neuchâteloise de 1872, l'enseignement religieux est distinct des autres parties de l'instruction. Il est facultatif. Les locaux scolaires sont à la disposition de tous les cultes pour l'enseignement religieux, en dehors des heures de classe. En Belgique comme en Hollande, l'enseignement religieux ne fait pas partie du programme officiel de l'école. Il est laissé aux soins des familles et des ministres des divers cultes. Un local dans l'école est mis à la disposition des ministres des cultes pour y donner, soit avant, soit après l'heure des classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur communion fréquentant l'école. Loi du 1er juillet 1879. Aux États-Unis, l'école publique donne généralement un enseignement religieux non dogmatique, sous la forme de lecture de passages de la Bible. Mais un certain nombre de villes ont établi la neutralité absolue de l'école, c'est-à-dire ont supprimé la prière et la lecture de la Bible. En Italie, la loi du 15 juillet 1877 a rayé le catéchisme et l'histoire sainte du nombre des matières obligatoires. Quelques communes ont profité de cette disposition pour donner à leur école primaire un caractère de neutralité. Mais le plus grand nombre ont maintenu, comme par le passé, l'enseignement religieux, devenu facultatif au terme de la loi, mais suivi en fait par l'unanimité des élèves. La législation française de 1882 est une de celles qui ont le plus logiquement et le plus complètement établi le régime de la laïcité. Après quelques mois d'expérience, nous ne pouvons pas prétendre en apprécier les résultats, mais le principe posé, nous pouvons examiner les diverses difficultés qu'il rencontrera dans l'application. Distinguons d'abord deux questions que l'on confond souvent. La laïcité du personnel enseignant et la laïcité de l'enseignement lui-même. Laïcité du personnel enseignant. Que les écoles publiques ne doivent employer comme personnel enseignant que des laïcs, ce n'est point un axiome, et ce n'est pas davantage une conséquence rigoureuse du principe même de l'enseignement laïque. Longtemps, les congrégations religieuses, sortes de personnel auxiliaire et de corps enseignant à la discrétion de l'Église, ont eu en fait le monopole de ces fonctions. Ce monopole est détruit, et nous ne le regrettons pas. Sans doute, il serait souverainement injuste de ne pas rendre justice aux services rendus pendant des siècles par ces associations et par l'Église qui les dirigeait. Sans doute, elles font encore aujourd'hui, sur plus d'un point en France, et surtout hors de France, une œuvre digne d'éloge et de reconnaissance. Et, soit qu'on prenne l'institution dans son ensemble, soit qu'on ait en vue les exemples individuels qu'il serait facile de multiplier, les uns appartenant à l'histoire, les autres empruntés à notre expérience et n'ayant pour théâtre que les plus obscurs villages, il ne serait pas difficile d'écrire un plaidoyer plein de faits touchants et d'arguments irrécusables en faveur des frères et des sœurs de tout ordre, si l'on avait à les défendre contre une condamnation sommaire et générale. Mais sans calomnier les ordres enseignants, sans méconnaître aucun de leurs mérites dans le passé ni dans le présent, on est bien forcé, quand on a admis la laïcité de l'enseignement public, de se demander si elle est compatible avec le maintien d'écoles congréganistes. Par leur institution, par leurs origines, par les vœux de leurs membres, par l'esprit du pacte qui les constitue, les congrégations en général, les congrégations enseignantes en particulier, ont une raison d'être qui est à peu près la négation de l'idée même de l'enseignement laïque. Pour elle, la religion est le but, le seul but, et l'instruction n'est que le moyen de conduire à la religion. Demander à une congrégation la neutralité religieuse, c'est une dérision. Prendre les congrégations dans leur ensemble comme instrument destiné à laïciser l'enseignement, c'est trop d'illusion, si ce n'est pas trop d'ironie. Il faut donc s'attendre, quoi qu'on fasse, à voir décroître l'élément congréganiste dans les rangs du personnel de l'enseignement public, à mesure que l'idée de la laïcité pénétrera davantage dans nos habitudes nationales. Est-ce à dire que la loi doive exclure de toute fonction dans l'enseignement public tout membre d'une congrégation? Une distinction est nécessaire. On peut soutenir qu'il y a lieu d'exclure la congrégation sans exclure le congréganiste. En effet, qu'a-t-on le plus universellement et le plus justement reproché aux communautés religieuses dans l'exercice de leurs fonctions enseignantes? C'est qu'elles ne relèvent pas en réalité de l'État et de l'université qu'elles sont censées servir. Elles ne lui obéissent qu'en apparence et ne lui apportent qu'une déférence tout extérieure. Les seuls véritables chefs dont la congrégation suive de cœur les préceptes et révère l'autorité, ce sont ces chefs spirituels, et rien n'est moins étonnant. C'est le contraire qui devrait surprendre de la part d'une réunion d'hommes ou de femmes qui se sont précisément séparés du monde pour appartenir tout entier à une certaine discipline. Comment veut-on qu'elle ne soit pas pour eux infiniment au-dessus de toute influence humaine? Le législateur l'a si bien compris que, de tout temps, il a considéré comme tout naturel de laisser au chef spirituel de la congrégation le droit de disposer de ses membres. La loi nouvelle elle-même n'a pas dérogé à cette règle. Elle laisse encore au supérieur de la congrégation la nomination des congréganistes sous réserve de l'agrément de l'autorité civile. C'est ce dernier vestige de l'ancien état de choses qui ne saurait subsister. La loi ne peut concéder à une corporation quelconque ce droit d'interposition et ce privilège de constituer une sorte de petit État dans l'État. L'université ne doit connaître que des instituteurs et des institutrices individuellement nommés et individuellement responsables. Quel que soit le nom qu'ils prennent et l'habit qu'ils portent, tous doivent être nommés, déplacés, payés, récompensés ou punis de la même façon et par les mêmes autorités. La disparition du régime exceptionnel en faveur des congrégations est donc la première réforme qui s'impose aujourd'hui pour que la réorganisation de l'enseignement national soit complète et efficace. Mais cette réforme entraîne-t-elle l'exclusion individuelle de tout instituteur congréganiste? Nous ne le pensons pas. Le fait d'appartenir à une association religieuse, sauf le cas où il s'agirait d'une société illicite, non autorisée, en révolte contre les lois, ne doit pas plus constituer à l'avenir un cas d'indignité qu'il n'aurait dû dans le passé conférer un titre ou un privilège spécial. La loi exige de celui qui veut être instituteur public ou privé certaines conditions et certaines garanties. Elle lui impose certaines obligations sous le contrôle d'autorités compétentes. On ne voit pas pourquoi elle frapperait d'interdit une catégorie quelconque de citoyens. De même qu'elle ignore s'ils sont catholiques, protestants, israélites, elle peut ignorer s'ils ont fait vœu de célibat, s'ils portent la soutane ou le béguin. Ils seront dans le droit commun le jour où on les nommera dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que leurs collègues laïcs. S'ils s'y soumettent, pourquoi maintenir une distinction entre eux et les autres? On répond « Ils ne s'y soumettront pas. Les congréganistes, nommés isolément, redevenant des instituteurs à titre individuel, mêlés indistinctement aux laïcs, exerçant dans la journée leur fonction d'instituteur et libres de rentrer ensuite à la maison commune pour se livrer à tels exercices religieux que bon leur semblera, un tel état de choses, c'est la mort des congrégations. Elles aimeront mieux n'avoir pas un de leurs membres dans l'enseignement public que de les voir reprendre ainsi leur indépendance et leur responsabilité. C'est possible, au moins pour quelques-unes de ces corporations. Mais qu'importe, elles agiront comme elles croiront devoir le faire. Tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est de ne rien faire à leur égard qui soit contraire au droit commun et par conséquent à l'équité. Le problème à résoudre est de ne créer ni une situation exceptionnelle au bénéfice d'aucune congrégation, ni, inversement, une situation exceptionnelle au détriment d'aucun citoyen, congréganiste ou autre. Et c'est précisément le résultat qu'on atteindrait en reconnaissant le droit individuel du congréganiste et en niant le droit collectif de la congrégation. Pour déclarer qu'aucun individu appartenant à une association religieuse ne pourra exercer les fonctions de l'enseignement, au moins de l'enseignement public, il faudrait invoquer ou un cas d'indignité morale, ce qui n'est pas soutenable, ou un cas d'incapacité professionnelle, ce qui ne peut être, puisque le congréganiste est tenu aux mêmes justifications de savoir que le laïc, ou enfin une incompatibilité. Or, il ne peut y avoir incompatibilité qu'entre deux fonctions ou deux emplois, et non pas entre une fonction publique et des actes de la vie privée. Une incompatibilité de ce genre ne se présume pas. On serait mal fondé à dire « Il y a incompatibilité entre la fonction d'instituteur public, par exemple, et le fait d'être israélite, parce que l'israélite ne voudra pas travailler le samedi. » Il est possible que tel israélite se refuse à cette obligation, et comme c'est une obligation de la charge, il ne peut être nommé ou maintenu. Mais il est possible aussi qu'il se plie à cette nécessité, et nous n'avons pas le droit de prévoir le contraire pour l'éliminer. De même pour les congréganistes. Il est possible que tel d'entre eux soit spontanément, soit par l'ordre de ses supérieurs, se refuse à accepter les conditions de nomination et d'exercice que la loi a établies pour les instituteurs sans distinction d'origine et d'état civil. Et dans ce cas, il s'exclura lui-même. Mais il est possible aussi que, le progrès des mœurs y aidant, un certain nombre d'instituteurs et d'institutrices d'une valeur réelle se décident à exercer dans les conditions ordinaires, tout en se réservant le droit de rentrer chaque jour, leur classe faite, dans leur communauté pour y continuer des pratiques religieuses qui appartiennent au domaine de la vie privée. Il n'est même pas impossible d'admettre qu'un certain nombre de congrégations, celles qui ne poursuivent pas d'autre but et n'ont pas d'autre arrière-pensée que d'exercer la bienfaisance, la piété, la charité, s'accommoderaient plus vite qu'on ne le croit de ce régime, comme elles se sont astreintes successivement aux diverses obligations professionnelles que l'État leur a imposées, tandis que d'autres associations, qui veulent avant tout que leurs membres soient des instruments dociles aux mains de leur chef, n'accepteront jamais cette nomination directe, cette dispersion, cette responsabilité individuelle, ces droits individuels à la retraite. En un mot, toutes ces mesures qui affranchissent le congréganiste de la congrégation. Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas un point de fait. C'est un point de droit que l'État aura à régler. Et nous croyons avoir démontré qu'il peut être réglé conformément à l'esprit libéral de notre législation, par l'abrogation pure et simple de la clause de l'article 31 de la loi du 15 mars 1850 qui stipule que la présentation est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique. II. Laïcité de l'enseignement proprement dit ou laïcité du programme. Que faut-il entendre par ces mots ? Et de quel degré de rigueur sont-ils susceptibles ? Nous estimons qu'il faut les prendre dans le sens qui se présente le premier à l'esprit, c'est-à-dire dans leur acception la plus correcte et la plus simple. L'enseignement primaire est laïque en ce qu'il ne se confond plus avec l'enseignement religieux. L'école, de confessionnelle qu'elle était, est devenue laïque ou non confessionnelle. Elle n'est plus seulement, entre guillemets, mixte quant au culte, situation qui pendant longtemps a marqué, pour ainsi dire, la transition entre les deux régimes, elle est, entre guillemets, neutre quant au culte. Les élèves de toutes les communions y sont indistinctement admis, mais les représentants d'aucune communion n'y ont plus autorité, n'y ont plus accès. C'est la séparation, si longtemps demandée en vain, de l'Église et de l'école. L'instituteur à l'école, le curé à l'Église, le maire à la mairie. Nul ne peut se dire proscrit du domaine où il n'a pas entré. C'est le fait même de la distinction des attributions qui n'a rien de blessant pour personne, ni de préjudiciable pour aucun service. Réduit à ces termes, le problème de la laïcité ne peut donner lieu ni à de bien vives discussions, ni à des difficultés sérieuses, quelques efforts comptantes pour les faire naître. Mais est-il possible de se tenir à ces lignes générales? Le culte de la logique, que nous professons plus peut-être qu'aucun autre peuple, n'exige-t-il pas que nous disions où commence et où finit la laïcité? Suffit-il que le prêtre n'entre pas dans l'école, que le catéchisme n'y soit pas enseigné, ni les prières récitées, pour que l'enseignement soit laïque? Si l'instituteur lui-même a des convictions religieuses, comment ne les communiquera-t-il pas à ses élèves? S'il n'en a pas, ou s'il les dissimule, sera-t-il vraiment à la hauteur de sa mission éducatrice? Ainsi envisagé, le problème s'élève et s'étend. La question législative et administrative fait place à la question philosophique et pédagogique. Essayons, sinon de le résoudre, du moins d'indiquer en quel sens la solution nous semble devoir être cherchée. Si, par laïcité de l'enseignement primaire, il fallait entendre la réduction de cet enseignement à l'étude de la lecture et de l'écriture, de l'orthographe et de l'arithmétique, à des leçons de choses et à des leçons de mots, toute allusion aux idées morales, philosophiques et religieuses étant interdite comme une infraction à la stricte neutralité, nous n'hésitons pas à dire que s'en serait fait de notre enseignement national. Ce serait ramener l'instituteur au rôle presque machinal de l'ancien magistère, dont les deux attributs distinctifs étaient la férule et la plume d'oie, l'une résumant toute sa méthode et l'autre tout son art. Si l'instituteur ne doit pas être un éducateur, quelque titre qu'on lui donne, quelque position qu'on lui assure, quelque savoir qu'il possède, sa mission est amoindrie et tronquée au point de n'être plus digne du respect qui l'entoure aujourd'hui. L'enfant du peuple a besoin d'autre chose que de l'apprentissage technique de l'alphabet et de la table de Pythagore. Il a besoin, comme on l'a si heureusement dit, d'une éducation libérale. Et c'est la dignité de l'instituteur et la noblesse de l'école de donner cette éducation sans sortir des cadres modestes de l'enseignement populaire. Or, qui peut prétendre qu'il y ait une éducation sans un ensemble d'influences morales, sans une certaine culture générale de l'âme, sans quelques notions sur l'homme lui-même, sur ses devoirs et sur sa destinée? Il faut donc que l'instituteur puisse être un maître de morale en même temps qu'un maître de langue ou de calcul pour que son œuvre soit complète. Il faut qu'il continue à avoir charge d'âme et à en être profondément pénétré. Il faut qu'il ait le droit et le devoir de parler au cœur aussi bien qu'à l'esprit, de surveiller dans chaque enfant l'éducation de la conscience au moins à l'égal de toute autre partie de son enseignement. Et un tel rôle est incompatible avec l'affectation de la neutralité ou de l'indifférence ou du mutisme obligatoire sur toutes les questions d'ordre moral, philosophique et religieux. Il y a deux espèces de neutralité de l'école, disait très bien le ministre de l'Instruction publique au cours de la discussion de la loi. Il y a la neutralité confessionnelle et la neutralité philosophique. Et il ne s'agit dans cette loi que de la neutralité confessionnelle. L'instituteur se doit à ses élèves et doit à l'État de ne prendre parti dans l'exercice de ses fonctions ni pour ni contre aucun culte, aucune église, aucune doctrine religieuse, ce domaine étant et devant rester le domaine sacré de la conscience. Mais on pousserait le système à l'absurde si l'on prétendait demander au maître de ne pas prendre parti entre le bien et le mal, entre la morale du devoir et la morale du plaisir, entre le patriotisme et l'égoïsme, si on lui interdisait de faire appel aux sentiments généreux, aux émotions nobles, à toutes ces grandes et hautes idées morales que l'humanité se transmet sous des noms divers, depuis quelques mille ans, comme le patrimoine de la civilisation et du progrès, si on lui contestait le droit de parler de l'âme et de la liberté, parce que ce serait condamner le matérialisme ou le fatalisme, de la tolérance, parce que ce serait blâmer implicitement la doctrine exclusive de telle ou telle église, des devoirs envers soi-même, envers les autres, envers Dieu, parce que ce serait pencher pour une morale chrétienne qui peut déplaire à un athée. À cet égard, ni le texte, ni l'esprit de la loi, ni les règlements délibérés pour l'application de la loi par le Conseil supérieur ne permettent le moindre doute. Et le ministre a eu raison, aussi longtemps qu'a duré la discussion de cette loi, et malgré tous les efforts de ses adversaires, de s'obstiner à les ramener toujours de la spéculation et de la logique à outrance aux faits et aux considérations pratiques. Il avait pour lui le bon sens et l'expérience quand il soutenait qu'en somme, l'enseignement moral n'est ni une impossibilité ni une contradiction avec le caractère neutre de l'école. Mais quelle morale, ne cessait-on de lui demander ? Et il ne cessait de répondre : mais tout simplement la bonne vieille morale de nos pères, la nôtre, la vôtre, car nous n'en avons qu'une. Nous avons plusieurs théories sur la morale, mais dans la pratique, c'est la même morale que nous avons reçue de nos parents et que nous transmettons à nos enfants. Oui, ajoutait-il en terminant, quoi que vous fassiez pour obscurcir cette notion, oui, la société laïque peut donner un enseignement moral. Oui, les instituteurs peuvent enseigner la morale sans se livrer aux recherches métaphysiques. Ce n'est pas le principe de la chose qu'ils enseigneront, c'est la chose elle-même. C'est la bonne, la vieille, l'antique morale humaine. La laïcité de l'école n'exclut donc pas l'éducation morale. Elle lui donne au contraire un rôle et une portée qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Aussi, les nouveaux programmes ont-ils fait une place à part à cet enseignement laïque de la morale, en lui imprimant un caractère distinct de tous les autres enseignements. Tandis que les autres études, dit l'instruction du 27 juillet 1882, développent chacune un ordre spécial d'aptitudes et de connaissances utiles, celle-ci tend à développer dans l'homme lui-même, c'est-à-dire un cœur, une intelligence, une conscience. Cette éducation n'a pas pour but de faire savoir, mais de faire vouloir. Elle émeut plus qu'elle ne démontre. Devant agir sur l'être sensible, elle procède plus du cœur que du raisonnement. Elle n'entreprend pas d'analyser toutes les raisons de l'acte moral. Elle cherche avant tout à le produire, à le répéter, à en faire une habitude qui gouverne la vie. À l'école primaire surtout, ce n'est pas une science, c'est un art, l'art d'incliner la volonté libre vers le bien. L'instituteur est chargé de cette partie de l'éducation, en même temps que des autres, comme représentant de la société. La société laïque et démocratique a en effet l'intérêt le plus direct à ce que tous ses membres soient initiés de bonne heure et par des leçons ineffaçables au sentiment de leur dignité et à un sentiment non moins profond de leurs devoirs et de leurs responsabilités personnelles. Pour atteindre ce but, l'instituteur n'a pas à enseigner de toute pièce une morale théorique suivie d'une morale pratique, comme s'il s'adressait à des enfants dépourvus de toute notion préalable du bien et du mal. L'immense majorité lui arrive au contraire, ayant déjà reçu ou recevant un enseignement religieux qui les familiarise avec l'idée d'un Dieu auteur de l'univers et père des hommes, avec les traditions, les croyances, les pratiques d'un culte chrétien ou israélite. Au moyen de ce culte, et sous les formes qui lui sont particulières, ils ont déjà reçu les notions fondamentales de la morale éternelle et universelle. Mais ces notions sont encore chez eux à l'état de germe naissant et fragile. Elles n'ont pas pénétré profondément en eux-mêmes. Elles sont fugitives et confuses, plutôt entrevues que possédées, confiées à la mémoire plus qu'à la conscience, à peine exercée encore. Elles attendent d'être mûries et développées par une culture convenable. C'est cette culture que l'instituteur public va leur donner. Sa mission est donc bien délimitée. Elle consiste à fortifier, à enraciner dans l'âme de ses élèves, pour toute leur vie, en les faisant passer dans la pratique quotidienne, ces notions essentielles de moralité humaine, communes à toutes les doctrines et nécessaires à tous les hommes civilisés. Il peut remplir cette mission sans avoir à faire personnellement ni adhésion, ni opposition à aucune des diverses croyances confessionnelles auxquelles ses élèves associent et mêlent les principes généraux de la morale. Il prend ses enfants tels qu'ils lui viennent, avec leurs idées et leur langage, avec les croyances qu'ils tiennent de la famille, et il n'a d'autre souci que de leur apprendre à en tirer ce qu'elles contiennent de plus précieux au point de vue social, c'est-à-dire les préceptes d'une haute moralité. L'enseignement moral laïque se distingue donc de l'enseignement religieux sans le contredire. L'instituteur ne se substitue ni aux prêtres ni aux pères de famille. Il joint ses efforts aux leurs pour faire de chaque enfant un honnête homme. Il doit insister sur les devoirs qui rapprochent les hommes et non sur les dogmes qui les divisent. Toute discussion théologique et philosophique lui est manifestement interdite par le caractère même de ses fonctions, par l'âge de ses élèves, par la confiance des familles et de l'État. Il concentre tous ses efforts sur un problème d'une autre nature, mais non moins ardu, par cela même qu'il est exclusivement pratique, c'est de faire faire à tous ses enfants l'apprentissage effectif de la vie morale. Plus tard, devenus citoyens, ils seront peut-être séparés par des opinions dogmatiques, mais du moins, ils seront d'accord dans la pratique pour placer le but de la vie aussi haut que possible, pour avoir la même horreur de tout ce qui est bas et vil, la même admiration de ce qui est noble et généreux, la même délicatesse dans l'appréciation du devoir. Pour aspirer au perfectionnement moral, quelques efforts qu'il coûte, pour se sentir unis dans ce culte général du bien, du beau et du vrai, qui est aussi une forme, et non la moins pure, du sentiment religieux. Cet exposé officiel de la manière dont le gouvernement de la République entend pratiquer la laïcité de l'école est la meilleure réponse à ceux qui affectent de conclure des dispositions de la loi de 1882 que l'école est désormais une école d'athéisme. Il disait, par une métaphore aussi grossièrement inconvenante que manifestement inexacte, que la loi nouvelle chassait Dieu de l'école. À les entendre, il devait être défendu de prononcer le nom de Dieu ou de lire un morceau quelconque de prose ou de poésie contenant un seul mot entaché de religiosité. Que quelques esprits violents et fanatiques, à rebours, aient conçu de tels projets et se soient plu à en faire parade, c'est là un de ces faits isolés et absolument sans portée qui peuvent se produire comme un témoignage de l'effervescence des passions dans les premiers moments d'une réforme quelconque, mais qui ne peuvent ni en dénaturer le principe, ni en compromettre l'application, tant le bon sens public en a vite fait justice. Une année s'est à peine écoulée depuis la mise en vigueur du régime nouveau, et déjà tout le monde est obligé de se rendre compte de l'immense progrès qu'a fait dans l'esprit public le principe même de laïcité. Amis et adversaires de la loi peuvent déjà toucher du doigt l'exactitude des affirmations du gouvernement lorsqu'au reproche de « supprimer l'enseignement religieux », il répondait « Il n'y a rien de pareil dans cette loi. On y trouve quelque chose de beaucoup plus simple, car c'est l'imitation de ce qui se passe autour de nous dans les pays les plus religieux. On y trouve tout simplement le règlement d'une question de compétence effectuée pour le bien de tous, pour le plus grand bien de la foi aussi bien que de la raison, pour la liberté des instituteurs aussi bien que pour la liberté des ministres du culte. On y trouve la séparation de deux enseignements qu'on ne peut, sans les plus graves inconvénients, laisser dans les mêmes mains. Est-ce que, du jour où cette loi sera votée, il ne sera plus donné d'enseignement religieux aux enfants des écoles? On le croirait, à vous entendre. Mais non. Il sera donné le dimanche, le jeudi, les jours de congé et même les jours de classe, en dehors des heures de classe. Il sera donné par qui? Par le ministre du culte. Il pourra l'être par l'instituteur lui-même s'il s'y prête librement en dehors de la classe. Dès lors, où sera la différence? Tout le changement, le voici. C'est que l'instituteur cessera d'être le répétiteur forcé et obligé du catéchisme et de l'histoire sainte. Voilà toute la révolution. Voilà comment la société s'effondre et comment nous tenons de par le monde école d'irreligion. Depuis le moment où la laïcité a été si sagement et si clairement définie, de nombreuses questions de détail ont surgi. Celle qui a fait le plus de bruit est celle du maintien des emblèmes religieux dans les anciens locaux scolaires. La circulaire du 2 novembre 1882, en réglant ce point d'application et quelques autres, déterminait, une fois de plus, l'esprit dans lequel doit être entendue la laïcité de l'école publique et le rôle de neutralité non militante qui doit être celui des instituteurs. Nous en reproduisons, en terminant, le passage le plus essentiel. Il formera la conclusion naturelle de cet article. Le principal objet de l'acte législatif qui a séparé l'école de l'Église, son résultat à la fois le plus immédiat et le plus efficace, doit être non la transformation des locaux scolaires, mais celle des programmes, des leçons, des exercices, de tout ce qui fait l'esprit de l'enseignement et la valeur de l'éducation. La loi du 28 mars n'est pas un accident, un fait isolé dans notre législation. En sécularisant l'école, elle ne fait qu'étendre le droit commun et en quelque sorte les principes mêmes de notre Constitution à l'organisation de l'instruction nationale, c'est-à-dire au seul des services publics qui, jusqu'ici, par une étrange contradiction, eût conservé la tâche confessionnelle. Par conséquent, tout ce qui tendrait à rapetisser cette loi, à la présenter au pays comme une sorte de règlement de police des locaux scolaires, à en inaugurer l'application par un semblant de croisade iconoclaste, pourrait bien servir les desseins de ses adversaires, mais en altérerait la notion même et risquerait d'en faire méconnaître par les populations le véritable caractère et la haute portée. Il n'y a qu'une manière de la bien appliquer, c'est de l'appliquer dans l'esprit même où elle a été votée, dans l'esprit des déclarations réitérées du gouvernement, non comme une loi de combat dont il faut violemment enlever le succès, mais comme une de ces grandes lois organiques qui sont destinées à vivre avec le pays, à entrer dans ses mœurs, à faire partie de son patrimoine. En conséquence, le ministre trace au préfet une ligne de conduite qui se résume ainsi. Vous n'accorderez sous aucun prétexte, ni atermoiement, ni concession, qui puisse porter atteinte au principe même de la loi. Mais, quant aux mesures indifférentes en elles-mêmes, quant aux délais qui vous seront demandés, non pour éluder la loi, mais pour en mieux assurer le fonctionnement, vous êtes seul juge des ménagements à garder. Et, pour en marquer la limite dans chaque espèce, vous vous rappellerez toujours que le gouvernement, plein de confiance dans le bon sens public, a la prétention, tout en faisant respecter la loi, de la faire comprendre et de la faire aimer. Voir encore le mot neutralité.